des pieds. Et je vous dis à demain matin. Salut.
www.radio-g.fr
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémics et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Nous sommes en passe de réaliser la fascisation de la démocratie française. Tous ceux qui nous expliquent que la situation d'aujourd'hui est nouvelle feraient bien d'aller consulter pour se rendre compte que ce qui nous arrive par les temps qui courent, c'est ce qui est arrivé à la population française dans les années 1930. On est entré dans la dictature en 38-39. C'est incontestable. Les archives sont impitoyables et catégoriques. Je sais bien, je dis là quelque chose qui a l'air absolument exorbitant de la doxa historique, mais les archives que j'ai produites sont impitoyables et catégoriques. Ça s'est fait comme ça.
L'histoire est une science humaine qui ne se fait pas avec des opinions, mais avec des sources que l'on croise entre elles pour établir des faits. Et en histoire contemporaine, les sources sont d'innombrables archives, souvent impitoyables, épluchées depuis des décennies par l'historienne Annie Lacroix-Risse, professeure émérite à l'université Paris 7. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off, et un nouvel épisode de notre série sur les suites du Congrès de Tours. À l'aide de milliers d'archives policières, patronales, militaires, diplomatiques de toute nationalité, Annie Lacroix-Risse rétablit ce qui s'est vraiment passé entre les années 1920 et 1950. Avec ses livres « Industriels et banquiers » et « De Munich à Vichy », l'historienne démontre la réalité d'un noyau dur du capitalisme français appelé la synarchie, qui a tout fait pour établir des dictatures fascistes, avec un certain succès d'ailleurs. Dans Le choix de la défaite, sorte de suite de l'étrange défaite que l'historien Marc Bloch écrit en 1940, Lacroix-Risse prouve qu'une partie des classes dirigeantes françaises ont tout fait pour que les nazis réussissent l'invasion de notre pays, qualifiée par certains de divine surprise, mais une défaite qui n'a en fait pas tant surpris que ça dans la haute bourgeoisie industrielle et bancaire française qui a tout fait pour qu'Hitler revienne mettre un petit peu d'ordre dans la classe ouvrière française qui s'agitait un petit peu trop, notamment en 36. Plutôt Hitler que le Front Populaire est un cri de guerre du patronat français de l'époque. Comme son titre l'indique, la non-épuration établit que la France d'après-guerre n'a été ni dénazifiée, ni épurée des traîtres et des collabos dont descendants et entreprises sont d'ailleurs toujours au pouvoir aujourd'hui. Et dans son dernier bouquin, Scission syndicale, Annie Lacroix-Risse met à jour la collaboration avec la bourgeoisie française, puis avec les Allemands, puis avec les Américains, de leaders politiques et syndicalistes supposés être socialistes, mais achetés et corrompus par des capitalistes. Et toutes ces horreurs, Annie Lacroix-Risse en donne les preuves avec des archives impitoyables, toutes citées dans chacun de ses ouvrages sur des dizaines de pages bibliographiques de références d'archives, parce que c'est à l'épaisseur de sa bibliographie qu'on reconnaît un véritable livre d'histoire. Car en histoire, la seule question qui prime est celle des sources. Annie Lacroix-Risse, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on verra que le fascisme n'a pas attendu les nazis pour s'établir en France. Nouvelle et stupéfiante plongée dans ces lugubres années 30. Charles Trenet avait beau le chanter depuis 1936. En 1938, bah c'est pas la joie.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour. Chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
En 1938, la France est déjà en état de dictature policière, 2 ans avant l'étrange défaite de 40. On revient aujourd'hui sur ces lois scélérates qu'étaient les décrets-lois d'Aladier, Édouard Daladier, le taureau du Vaucluse. Annie Lacroix-Risse.
Le taureau du Vaucluse, j'ai un collègue qui, avec une certaine rudesse, a expliqué que c'était un taureau émasculé. Il a utilisé une expression plus hardie. Soyons sérieux, il s'agit en effet d'un chef radical qui a toujours été droitier, ce qui était très courant puisque les radicaux ont gouverné avec la droite pendant toute la Troisième République, y compris dans l'entre-deux-guerres. Daladier, ministre de la guerre, et qu'on réfléchisse bien ici à ce que veut dire l'intronisation comme ministre de la guerre d'un homme de gauche, hein, en 1933, comme de nos jours, puisque en France, aucun subversif n'a jamais franchi ses bureaux. Fin 33, l'ambassadeur de France à Berlin, qui est tout simplement d'ailleurs l'ambassadeur du comité des forges, André-François Poncet, annonce officieusement, mais c'est consigné par les archives allemandes, à Hitler et à son ministre des Affaires étrangères, von Neurath, qu'il va y avoir bientôt une dictature en France, sur le modèle de la dictature allemande. Je dis bien que nous sommes fin 1933, hein, et qu'on envisage comme homme fort deux personnalités, dont Daladier, ministre de la guerre. Des auditeurs diront, mais non, mais Daladier, c'est un des radicaux au Front Populaire, etc. C'est un radical qui n'a adhéré au Front Populaire que pour revenir en selle dans le cadre des élections du Front Populaire. Mais c'est un homme qui est en accord avec les milieux économiques, avec les milieux financiers, qui est entièrement dépendant, je dirais, comme toutes les têtes du Parti radical. Il y a une exception, il y a Cotte qui a fini par faire de fait rupture, mais Daladier, qui donne au Parti radical les moyens nécessaires pour affronter la gauche, la vraie gauche. C'est un homme qui œuvre sous la direction des élites financières et de leurs représentants politiques. C'est incontestable et je l'ai montré dans un ouvrage qui s'appelle « Le choix de la défaite » de manière si formelle et archives à l'appui qu'il y a un charmant collègue qui a fait une critique de cet ouvrage en disant « Bon, d'accord, elle est très bien documentée, mais c'est pas possible de faire un portrait aussi noir. » Ainsi, c'est possible. Dès 36-37, Ils commencent à trouver que le Front populaire, c'est littéralement le bolchevisme qui arrive en France. Je le rappelle, il est membre du Front populaire. Mais il est tellement acquis à la ligne des grands patrons, à la ligne de la synarchie, que on le fait venir troisième roue du carrosse après Blum, après Chautemps en avril 38, on le fait venir comme président du Conseil. Il s'occupe aussi de la guerre d'ailleurs, et donc il est là pour appliquer une politique de casse et de guerre, pas de guerre contre l'Allemagne, de guerre contre la classe ouvrière et contre les acquis de 1936. Les archives, pour le coup, sont impitoyables et catégoriques, puisque j'ai apporté la preuve, archives patronales à l'appui, de la Chambre de commerce de Paris et celle de la Banque de France, qu'on a là une étape essentielle de la casse du Front populaire, qui est de fait cassée bien avant, mais qui, à partir d'avril 1938, met la France dans une situation que j'ai comparée à la situation allemande, qui est aussi largement inconnue en France. Bon, on entre dans une période de dictature de la grande bourgeoisie. Mais de dictature de la grande bourgeoisie, ça n'était pas neuf, puisque c'était la Banque de France qui dictait l'ensemble des cabinets après les élections. On est, à partir d'avril, avec un programme qui est fixé par les patrons. On a la preuve. Programme mis en œuvre depuis 1936, parfois avant sur d'autres points, mais qui est notamment un programme de casse de la CGT. Parce qu'on ne peut vaincre la classe ouvrière que si on écrase son unité syndicale. C'est donc un projet dont Daladier est un des exécutants. Et à partir de mai 1938 jusqu'à la fin, puisque lui, il est relayé le 20 mars 1940 par quelqu'un qu'on présente aussi volontiers comme un dur anti-mouniquois, un homme de droite, mais un patriote, c'est-à-dire Paul Reynaud, jusqu'au 20 mars 1940, c'est lui qui est président du Conseil et c'est lui qui a montré, dès avant 1939, que le programme, c'était le même programme que le programme dictatorial qui a été mis en œuvre en Allemagne à partir de mai 1930, puisque en Allemagne, à partir du printemps 1930, la République de Weimar, qui est déjà une république extrêmement peu républicaine, devient une véritable dictature, puisque le Parlement national est réuni de temps en temps pour voter une adhésion au décret-loi, qu'on ne gouverne plus que par décret-loi, et ça dure jusqu'en 1933. Nous, on est entré dans la dictature en 38-39. C'est incontestable et j'ai, je crois, démontré comment. À partir d'avril 1938, tombent les catastrophes sur la classe ouvrière. Des mesures contre les étrangers, décret de mai 1938 contre les étrangers, les mesures anti-métèques, antisémites, à partir, je dis bien, de 1938. Et toute une série de décrets se succèdent, mettant les étrangers en situation de précarité plus grande, leur interdisant toute adhésion syndicale, et ça dure comme ça toute l'année 1938. Ça aboutit à la catastrophe syndicale, préparée dans la collaboration étroite entre Jouhaud et Belin, l'État et les patrons. Ça aboutit à la catastrophe officielle du 30 novembre 1938. Le patronat a pratiquement ce qu'il veut dans la mesure où on a un syndicalisme qui est déjà de fait cassé. Puisque, je le rappelle, le fameux discours à la radio de Paul Reynaud, alors ministre des Finances, le 14 novembre, qui annonce sur un ton de triomphe que la semaine des deux dimanches est terminée, et ajoute-t-il, l'étranger et l'Europe doivent regarder, l'étranger évidemment, c'est au premier chef, le Reich, on est en novembre 1938, ce que les patrons et l'État ont appelé le Munich intérieur. Ils ont été munichois parce que la liquidation de la Tchécoslovaquie, l'abandon d'une des dernières alliances de la France, l'avant-dernière étape sur la route de l'invasion, c'est aussi quelque chose qui marque une étape décisive sur la casse du mouvement ouvrier français. Mais l'engagement pro-allemand de la fin des années 1930, c'est un engagement qui aide directement les classes dirigeantes françaises à écraser leur propre classe ouvrière. Et donc, à partir de novembre 1938, après la réussite, si j'ose dire, de l'échec de la grève générale, on entre dans une période où on gouverne toujours par décret-loi avant le régime de Vichy. Casse ultime de la démocratie, qui était d'ailleurs annoncé par l'homme du comité des forces, André-François Poncet, qui, après avoir aidé à tuer la Tchécoslovaquie et terminer sa mission en Allemagne qu'il adorait, en novembre 1938, il s'en va voir un diplomate italien en poste à Paris, puisqu'il va aller à Rome, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Nous sommes en passe de réaliser, je le cite, la fascisation de la démocratie française. On est dans une période où les bons républicains, et j'y adjoins Blum a apporté toute sa contribution à cette ligne, une ligne impitoyable contre la classe ouvrière, qui est en même temps une ligne de préparation directe de la défaite française. Je sais bien, je vous dis là quelque chose qui a l'air absolument exorbitant de la doxa historique, mais les archives que j'ai produites sont impitoyables et catégoriques. Ça s'est fait comme ça et personne ne peut le discuter, d'où la tristesse de mon collègue lisant Dominique Avichy et disant que c'est pas possible qu'elle ait trouvé des archives, que la réalité soit si noire. Si, elle est très noire, mais après cet échec gravissime qui abolit de fait les 40 heures, ça rétablit la possibilité des 48 heures à une époque où la durée moyenne de la semaine de travail est inférieure à 36 ou 37 heures. Donc c'est une mesure de rétorsion pour casser le ressort de la classe ouvrière de capacité de lutte et de défense. Casser aussi son ressort national. C'est une donnée très importante, très bien perçue par le remarquable analyste qui était Marc Bloch dans ce fameux ouvrage dont beaucoup de gens parlent, dont je redoute que beaucoup ne l'aient pas lu, dans l'étrange défaite, où il montre à quel point la portée de l'abdication nationale a été décisive dans la défection de la classe ouvrière, car il y a eu en France, et surtout à partir de 1938, une acceptation tacite du sort dramatique qui allait échoir à la France, mais qui allait particulièrement échoir à la classe ouvrière. Et ce qui provoquait l'indignation de Marc Bloch, auquel ont contribué les dirigeants syndicaux. On est déjà en novembre 38 dans une situation où la classe ouvrière voit son pouvoir d'achat s'effondrer, avec une série de mesures fiscales anti-ouvrières, une fiscalité encore plus favorable pour le capital qu'elle n'était. Il n'y a jamais eu de retour de la confiance, c'est-à-dire que les capitaux ne sont jamais revenus en France, seulement les capitaux ont obtenu des mesures favorables. Tous ceux qui nous expliquent que la situation d'aujourd'hui est nouvelle feraient bien d'aller consulter pour se rendre compte que ce qui nous arrive par les temps qui courent, c'est ce qui est arrivé à la population française dans les années 1930.
Comment Daladier, l'arbin du capital, fait-il pour faire passer ces décrets-lois scélérats ?
Qu'est-ce qui arrive à la Chambre ? Elle ratifie les décrets-lois et puis on la ferme pour 3 mois. C'est-à-dire que le décret-loi, c'est un décret. Et puis il finit par être loi avant Vichy. C'est en cela qu'il s'agit purement et simplement d'une dictature, puisqu'on est sûr, soit que la SFIO s'abstienne, mais quelquefois elle ne fait pas que s'abstenir, et puis elle le fait d'ailleurs en accord avec les radicaux, en accord avec la droite, la majorité est toujours acquise. Tout se fait par décret-loi, avec évidemment des communistes dont la voix et dont l'efficacité d'intervention sont terriblement affaiblis par la conjoncture générale et par l'adhésion d'un monde politique et syndical qui va de la SFIO incluse même les gauchistes de la SFIO. La haine anticommuniste est telle que on peut parvenir, évidemment, à unifier des positions que, dans l'étrange défaite, Marc Bloch juge moralement inconciliables. Comment ces anciens gauchistes peuvent faire alliance à ce point avec leur ennemi de classe? On reviendrait au débat sur le congrès de Tours pour comprendre les choses. Juillet 1939, deux mois avant le 23 août 1939.
Le 23 août 1939, Staline accepte le pacte de non-agression que lui propose Hitler. Un an après le pacte de non-agression que France et Angleterre ont signé avec l'Allemagne nazie lors des accords de Munich de 1938.
Dans les conditions de capitulation, d'agenouillement de la France dirigeante devant le Reich hitlérien, la Gleichschaltung, la mise au pas, la nazification, cette nazification en France, elle aboutit mi-39, dans les conditions créées par la défaite ouvrière depuis décembre, dirons-nous, 1938, cet affaiblissement terrible aboutit à ce que le 1er juillet 1939, avec bien sûr l'aval de Daladier, le président du Conseil, le ministre radical des Affaires étrangères, Georges Bonnet, que l'ambassadeur du Reich, von Weltseck, présentait en 1938 comme l'homme des banques. Georges Bonnet voit von Weltseck, 1er juillet 1939, et lui annonce, dans les meilleurs délais, nous allons mettre les communistes à la raison, nous allons interdire les réunions, c'est celle des communistes, hein, et nous allons supprimer les élections. C'est établi par les archives allemandes et les archives françaises. Le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique, on a le prétexte pour réaliser l'ensemble des intentions qu'avait annoncé le bon Georges Bonnet. 31 juillet 1939, à peine un mois après la promesse de Georges Bonnet, est annoncé officiellement que les élections de 1940 seront différées. Dès le 25 août, l'ensemble de la presse communiste et amie est interdite. À partir du 25 août, il n'y a plus de presse communiste.
Et un mois plus tard, interdiction du Parti communiste français.
Décret-loi du 26 septembre 1939, décret-loi Daladier, voté dans l'enthousiasme général de la Chambre. L'interdiction s'est traduite par une chasse à l'homme systématique avec emprisonnement de tout ce sur quoi on pouvait mettre la main. À partir de là, une série de dirigeants communistes sont en prison, communistes sous les verrous. À partir de janvier 1940, les communistes déjà victimes de répression sont traduits en justice, c'est-à-dire les députés communistes, non seulement évidemment sous les verrous, sont frappés de déchéance parlementaire, de la SFIO comprise à l'extrême droite. C'est un alali dont on n'a même pas idée, tellement la violence en est grande. Vichy n'a pas eu toute l'initiative en la matière. Donc, on est face à un parti communiste complètement ou largement privé de moyens, réunion interdite, presse interdite, et puis procès à huis clos. Il faut savoir ce que ça a été que la répression 39-40, des institutrices à qui on volait leur bibliothèque. Il y a une partie considérable des archives communistes qui a disparu en 1939-1940. L'État a tout saisi, la police a tout saisi. Les communistes n'ont jamais récupéré cette extraordinaire richesse archivistique. Ce n'est pas des archives d'ailleurs, de la bibliothèque d'une institutrice jusqu'à l'ensemble des archives des organisations considérées comme communistes. Parce que la période 36-38 avait été une période favorable à l'explosion, si je puis dire, de ce que les communistes appelaient les organisations de masse, le Secours Rouge devenu le Secours Populaire, une kyrielle d'éléments de familiarisation politique de la classe ouvrière et des couches pro-communistes. Tout ça disparaît. Tous ceux qui font preuve de lien avec les communistes, n'est-ce pas, sont interdits.
Et c'est aussi la chasse aux sorcières à l'intérieur de la CGT. Les cégétistes confédérés anticommunistes de Jouot excluent les cégétistes unitaires communistes.
C'est une occasion terrible d'ailleurs de conflit durable entre les confédérés et les communistes à l'intérieur des organisations. Tous ceux qui ne voulaient pas condamner explicitement le pacte germano-soviétique et qui étaient automatiquement soumis à interrogatoire par leurs camarades confédérés, étaient exclus du syndicat. Ça a donné lieu à des séances ahurissantes. À partir du décret-loi du 26 septembre 1939, les confédérés de Jouot et de Belin, avec l'appui de la police, l'appui de la justice et le soutien explicite du patronat, chassent leurs membres communistes, car leurs membres communistes ne veulent pas abjurer. Il n'y a eu pratiquement aucune défection à l'intérieur de l'ex-CGTU. Il y a par exemple ce remarquable ouvrage de Georges Sadoul sur les mémoires de la drôle de guerre qui fait allusion à cette atmosphère dans laquelle il n'y a plus un militant qu'un journal, il n'y a plus de journal. On ne sait pas comment ça s'est répandu, puisque les procès, je le répète, sont à huis clos. Comment on apprend, par exemple, qu'un militant syndical de la métallurgie, Alfred Coste, Fredo, s'appelait-il au sein de la CGTU, s'est assuré une défense? Comment? C'est le communisme qui l'a sauvé, c'est les choix de Tours qui l'ont sauvé, que jamais, évidemment, il n'abdiquerait ses convictions communistes, qui se battrait. Par exemple, d'autres militants, comme le fameux Ambroise Croizat, tout ça au trou, qui raconte comment le patronat s'est opposé à toutes les mesures de réarmement en faveur desquelles les ouvriers se battaient. C'est-à-dire que dès qu'on a des sources diverses, et en particulier d'ailleurs des sources policières, mais les autres sont aussi convaincantes. Bien entendu, on balaie toutes les âneries qui circulent sans interruption depuis 80 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le rouleau compresseur des médias, de l'historiographie dominante qui trouve sans doute qu'il est indigne de son rang élevé de consulter des archives aussi menues et sans intérêt?
Propagande absurde qui nous est tartinée depuis 1939, puisqu'il n'y a pas que germano-soviétique, bah donc les communistes, bah c'est pareil que les nazis.
Qui peut dire que de septembre 1939 à juin 1941, les communistes ont été les alliés des nazis? Rien ne permet de l'établir et tout permet de lutter contre. Bien entendu, ils n'étaient pas devenus hitlériens. Ils étaient en prison. Ils étaient en fuite. Plus aucune capacité de s'exprimer. De la déclaration de guerre et même avant, à la drôle de guerre, quelle force politique s'est montrée hardie dans les préparatifs de la guerre? Aucune. Alors aucune, hein. Les manquements effrayants de la SFIO, ce sont des manquements qui se sont accumulés dans la période antérieure. C'est dans les archives allemandes qu'on trouve la trace, fin août 1939, d'une intervention express de Léon Blum auprès de Daladier, quand Daladier fait semblant de sortir les muscles contre l'Allemagne, et Blum va le voir en lui disant « Oh là là, ne vous excitez pas sur la Pologne !» Et qui, avant juin-juillet, 22 juin 1941, quelle force était entrée dans ce qu'on peut appeler la résistance militaire? Aucune autre que les communistes, puisqu'il y a eu d'ailleurs toute une série d'interventions anti-allemandes des communistes qui ont été classées comme des initiatives de purs francs-tireurs contre la direction du parti. Mais ça veut dire quoi, la relation entre la base et la direction du parti dans la situation de désorganisation à partir de septembre 1939?
Tournant de la dictature, réfugié à Vichy, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, vote la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 qui confie les pleins pouvoirs au gouvernement du maréchal Pétain. 20 abstentions et 176 absents, et le texte est voté avec 569 voix pour, 80 contre. Une écrasante majorité de députés et sénateurs, notamment des socialistes de la SFIO, abandonnent la République et choisissent la dictature.
Il y a quand même 80 députés et sénateurs qui s'y sont opposés, très étroite minorité, y compris à la SFIO. C'est-à-dire que la situation de complicité à l'égard du double phénomène de la mort de la République et de la défaite, la SFIO vote en minorité contre les pleins pouvoirs. Ne parlons pas des radicaux, c'est l'écrasante majorité qui vote. On a un Parlement et un Sénat qui se sont couchés devant l'Allemagne dans des conditions qui, bien entendu, sont éclairées par une étude sérieuse de la période qui a précédé. Donc non, la SFIO n'a en aucune manière été un frein au malheur de la France en 1939-1940, ni après d'ailleurs. Qui est-ce qui vote contre les pleins pouvoirs? On ne peut pas compter des voix communistes là-dedans. Les communistes illégaux, tous leurs élus déchus, donc du Sénat, il y en a un, c'est Cachin, c'est le grand Cachin. On avait au sein du Parti communiste un sénateur, un seul, on n'avait que des députés. 73 députés communistes, le vote des pleins pouvoirs, c'est quasiment le vote de Munich, sauf qu'il n'y a plus les communistes.
Qui a voté contre les accords de Munich de 1938?
73 députés communistes, un homme d'extrême droite et un député socialiste qui sera d'ailleurs un résistant assez précoce, ce qui est rare chez les socialistes. Jean Bouet, député, je ne sais plus, c'est du Doubs, qui s'est opposé à Munich. Tous ceux, ou presque, qui ont voté Munich, tout parti socialiste a voté Munich, sauf Bouet, sont allés quasiment jusqu'au bout. Donc on a une minorité de la SFIO qui se dresse contre les pleins pouvoirs. Et non pas du tout, comme ont dit un certain nombre de mes collègues, parce que les députés et les sénateurs avaient perdu leurs repères en arrivant à Vichy. Personne n'a perdu ses repères. Mais enfin, personne ne perd ses repères. C'est une invention, ça. Ils ont adopté la ligne qui était une ligne logique, compte tenu de leur abandon de la République, de leur abandon de la défense nationale.
Oui, mais on a aussi accusé les communistes d'avoir entravé et saboté l'effort de réarmement d'avant-guerre.
C'est un énorme mensonge que de raconter qu'il y a eu du sabotage communiste contre l'armement. Il y en a eu, un petit peu par-ci, par-là. J'étais des provocateurs, etc. Les Allemands en avaient, hein, mais qu'on soit sérieux. Est-ce qu'ils avaient réellement à avoir un rôle dans le sabotage alors même que les patrons se rendaient célèbres en proclamant tel Louis Renault dans ses ateliers de Boulogne-Billancourt que la production pour la guerre, il n'en avait rien à foutre. Je le cite, hein, c'est pas une grossièreté de ma part. Moi, j'ai montré, pendant la drôle de guerre, comment Renault se balade à travers ses ateliers en disant les voitures militaires pour le front, je m'en fous, ce que je veux vendre, c'est des voitures de luxe, des Juva 4. Ben, c'est pas avec les Juva 4 qu'on allait vaincre l'Allemagne. C'est le même Renault qui devient, à partir de 1940, le fournisseur, et avec quel enthousiasme, de camions sur le front russe, alors que les Américains, General Motors et Ford, qui ont des filiales en France, en particulier celle de Ford à Poissy, ont été les plus importants fournisseurs du Reich de camions de 3 tonnes sur le front russe. Toute l'armée savait très bien qu'il n'était pas du tout question pour les communistes d'envisager quelques gestes antimilitaristes que ce soit. Les communistes ont considéré que défendre les frontières de leur pays était une tâche fort importante. Donc, d'une part, il n'y a jamais eu d'action antimilitariste à partir de 1935, sans qu'il y en ait eu beaucoup avant, mais surtout, dans ces années 30, les marchands de canons n'ont plus rêvé que de ne plus faire de canons. Il y a eu une désertion de masse à l'égard de la production de guerre dont j'ai montré des éléments constitutifs depuis les années 20, les classes dirigeantes ont abandonné la défense nationale de la France, j'ai bien dû remonter à l'étape essentielle de la signature des accords du plan d'Oz en 1924, c'est-à-dire de la renonciation à toute action militaire contre l'Allemagne. Voilà des choses qui sont incontestables parce qu'elles sont prouvées par les sources allemandes et par les sources françaises et par les américaines, par les anglaises. Moi, je ne connais pas les soviétiques. C'est la mode chez mes contradicteurs de dire que je me sers aussi des archives nazies. Ben, je pense bien que je me sers des archives nazies. Elles sont d'une fluidité, d'une lucidité. Puis alors, je dois dire que c'est un argument d'autant plus grotesque. Le ministère des Affaires étrangères, le seul dont je connaisse les archives, tous les spécialistes allemands, quasiment tous, qui écrivent à l'époque hitlérienne, mais qui croient sérieusement qu'il y a un diplomate important allemand qui n'ait pas fait sa carrière déjà sous la République de Weimar, qui sont les mêmes que ceux de l'Allemagne occidentale, puisqu'il n'y a eu aucune dénazification. Alors mes collègues, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Que les hauts fonctionnaires, ils étaient bons quand ils étaient sous Weimar, qu'ils étaient bons quand ils étaient sous Adenauer, mais qu'ils n'étaient pas bons quand ils étaient là sous Hitler. Mais non, ce sont les mêmes. Les archives sont les archives et n'obère pas la valeur des archives en disant « ben non, cet interlocuteur ne me plaît pas ». Que vous l'aimiez ou non, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, il fait le travail de surveillance pour lequel il est payé. Quitte évidemment aussi à faire les recoupements tout à fait indispensables. Avec la masse d'archives et la diversité d'archives que je brasse, j'ai tout loisir de faire les recoupements.
Les impitoyables archives d'Annie Lacroix-Risse lui permettent de démontrer des choses très désagréables pour bien des gens. On n'en a hélas pas encore fini. On va donc faire une petite pause musicale dans cet océan d'ignominie et de trahison avec cette chansonnette poussée en 1941 par un Maurice Chevalier bien embêté et qui ne sait plus trop quoi chanter de pas trop compromettant dans la nuit noire de la dictature nazie.
J'ai chanté l'amour, j'ai chanté « y'a de la joie, sans grande joie pourtant ». Chantonnais donc un petit air à pleine voix, l'air fut étouffant. Désormais, quels seront donc les pauvres mots sur les chansons gaies? Pour vous, on invente, on osera placer et sans hésiter trop, pour ne pas me tromper. Moi, voilà ce que je chante. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Tim pa poum pa la, tim pa poum pa la. Avec un ou deux petits hop là, hop là. Si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, tim pa poum pa la, c'est notre espoir. En somme, l'important c'était de recommencer, qu'importe l'expression. L'essentiel était de pouvoir dispenser du rêve en chanson. Un poète aurait trouvé les mots qu'il faut, qui aurait rimé ses voeux d'espérance. Moi, mon espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre vieille France. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Et zim pa poum pa la. Et zim pa poum pa la. Avec un ou deux petits hop là, hop là. Si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, et zim pa poum pa la, c'est notre espoir.
C'est moi qui fais ça. Ce que joue comme ça, cet orchestre-là, c'est notre espoir, espoir.
Après les collaborations patronales, politiques, syndicales d'avant-guerre, abordons maintenant la collaboration policière pendant et avant l'occupation. Une intense collaboration policière franco-nazie commence, non pas en 1940, mais dès 1938, 2 ans avant l'invasion allemande. Flics nazis et flics français travaillent déjà ensemble dans la chasse aux rouges, juifs et autres antifascistes. Annie Lacroix-Riss.
À partir de l'installation des Allemands en France, non pas se crée, mais se poursuit une collaboration policière anti-rouge et anti-réfugiés allemands qui n'a pas attendu Munich, mais qui a pris un développement tout à fait remarquable à Munich. Le responsable qui est venu avec Ribbentrop, décembre 1938, von Bömmelburg, qui devait être le deuxième personnage de la Gestapo en France. C'est un type de la police allemande qui passe son temps à discuter avec l'appareil de répression centrale de la France en 38-39, à ce moment-là, de manière explicite, pour pourchasser les militants allemands réfugiés. C'est le même qui revient avec Abetz en juin 1940 et qui, sans cesse, évidemment, est là sous l'occupation. Et qui est comme d'ailleurs tous ces gens du ZIPOSD, du Sicherheitspolizei, du bureau de sécurité allemand, la police étant là-bas, comme ailleurs d'ailleurs, bien sûr, une police de répression, une police de renseignement, l'un allant avec l'autre d'ailleurs. Et donc Bömmelburg est là. Qu'est-ce qui se passe quand il revient? Eh bien, la préfecture de police et les autorités policières lui font des mamours, puisque le préfet de police rencontre un des responsables en lui annonçant, en septembre 1940, qu'on est en train de mitonner un fichier sur les Juifs. Et on discute évidemment très vite de l'action anticommuniste, parce que on nous répète sans arrêt que les Allemands ne sont pas du tout intéressés aux communistes, que les communistes ont pu faire ce qu'ils voulaient, ils ressortaient, tout ça, bon, mais pas du tout. Est-ce que les Allemands avaient besoin de dire aux Français que fallait s'occuper beaucoup des communistes? Enfin, soyons sérieux quand même. Non, bien sûr, mais à partir de fin 40, on se voit de plus en plus sur ces questions, et j'ai montré qu'en février 1941, une collaboration de plus en plus étroite est prévue contre les communistes. Donc que les Allemands ne se contentent plus de dire aux Français « faites ce que vous voulez, vous êtes tranquille chez vous », sur ce plan, on vous fait entièrement confiance, mais que von Bömmelburg et Knochen, et à partir de mai 42, le deuxième personnage de ce qu'on appelle nous la Gestapo, qui sont tous les services de police secrète de l'Allemagne, qui devient le second à partir du printemps 42 d'Auberg, ces gens discutent, notamment avec la préfecture de police. On est entré dans une collaboration explicite anticommuniste à partir de février 1941. Cette collaboration policière, elle était un des éléments de la collaboration totale des forces de répression françaises. Parce que le drame de la France occupée, comme de n'importe quel pays occupé, c'est que l'Allemagne a très peu. Bien sûr, il y a quelques dizaines de milliers d'hommes de la Wehrmacht. Hein. On a eu, jusqu'en 43, à peu près 26 divisions allemandes, de l'ordre de 100 000 forces. Mais surtout, on a très peu de forces policières allemandes. Knochen n'arrête pas de se plaindre de l'extrême faiblesse de ses forces policières. Il a 3 000 personnes sous sa coupe. Qu'est-ce qui a fait les effectifs de la répression en France? C'est centaines de milliers de policiers et gendarmes français. Mais c'est pareil dans tous les pays occupés, sauf en URSS, en Yougoslavie, enfin sur le front oriental, où il y avait d'emblée une telle résistance qu'il a fallu des forces énormes. Mais le front occidental, c'est un front quasiment vide. C'est la collaboration qui fait la force policière. Ils n'ont pas besoin d'avoir 200 000 policiers.
On va revenir sur un autre mythe entretenu sur les vilains communistes qui sont déjà en résistance dès septembre 39. Le Parti communiste est interdit, démantelé, ses membres emprisonnés par milliers, éparpillés et sans coordination. En juin 40, quelques dirigeants isolés du PC demandent aux Allemands de pouvoir faire reparaître le journal L'Humanité. Une initiative isolée qui aura depuis fait couler beaucoup d'encre et de salive sur ces méchants cocos qui sont pareils que les nazis. Alors, qu'en est-il ?
Il y a des militants de haut rang qui, d'ailleurs, à l'incitation d'un avocat communiste qui a fini, d'ailleurs, par céder à la collaboration Ronsin, qui se sont entremis en juillet 1940 avec Abetz pour demander la reparution de l'humanité, c'est incontestable. Il y a une période de flou. À partir d'octobre 1940, il est signifié à ses militants que la question ne se pose plus. Donc, il y a eu, avec des niveaux de responsabilité qui ne sont établis à aucun égard, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve que c'est Duclos ou que c'est Frasson qui ont donné l'ordre, encore moins Thorez, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été une initiative de franc-tireur dont on ne sait pas jusqu'où elle est allée, mais grosso modo, ça a duré 3 semaines.
En ce qui concerne la résistance militaire française, on nous aura aussi raconté beaucoup d'âneries. Mais les faits, établis par les archives, sont là. Jusqu'à l'été 41, il n'y a pas de résistance militaire en France, ni communiste, ni autre. Le 22 juin 41, l'agression de l'URSS par l'Allemagne nazie marque en France le point de départ de la résistance armée. Et les archives policières sont catégoriques. De l'été 41 au printemps 44, l'essentiel de la résistance française armée, c'est la résistance communiste. Les autres mouvements de résistance, non communistes, peuvent recevoir des armes légères des alliés, mais ont pour instruction de ne pas s'en servir et d'attendre le débarquement pour entrer dans le combat. Mais on le répète, pendant l'occupation, la résistance militaire française, c'est essentiellement la résistance communiste. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que De Gaulle enverra Jean Moulin négocier avec les Rouges, sans lesquels le général n'est rien.
Les choses se font essentiellement au départ contre Vichy. Les comités de résistants, les comités qui prennent en charge l'action syndicale à partir d'août septembre 1939. Sont des comités qui luttent sous la direction de Frasson, comité de reconstitution du syndicalisme illégal, dont l'essentiel de l'activité consiste à se battre contre la politique de Vichy, demander des augmentations de salaire, protester à partir de l'automne 1940 contre les carences du ravitaillement. Le ravitaillement s'en va, il n'est plus destiné à la France. C'est très clair dès octobre 1940. Mais incontestablement, sauf ouvriers qui, comme éventuels non-ouvriers, a tenté de faire le coup de main avec une arme conservée contre les Allemands, c'est quand même un cas rarissime. Bien entendu, la résistance active militaire, elle commence avec l'attaque de l'URSS. Mais qui a lutté contre Vichy, contre la dégradation des conditions de vie? Ce sont les unitaires. Les militants les plus connus sont des gens qui se sont illustrés dans les brigades internationales. Et on le voit très bien d'ailleurs à partir du 22 juin. Moi j'ai produit dès d'ailleurs Industriels et banquiers toute une série d'archives qui montrent comment ça a été une explosion de joie, l'attaque contre l'Union soviétique dans les milieux communistes, dans les milieux ouvriers. C'est-à-dire qu'enfin, voilà, c'était clair, on allait pouvoir mener la lutte. À partir de ce moment-là, on entre dans la période de la lutte armée. Dans la correspondance du préfet du Nord, le Nord, Pas-de-Calais, est dans la zone interdite, qui est quasiment une zone annexée, à partir de septembre-octobre 1940, compte que le mécontentement de la classe ouvrière et des mineurs va atteindre un point de non-retour. C'est à l'initiative des seuls militants communistes qu'est lancée en mai 1941, par le 22 juin, la grève des mineurs. Elle n'est animée que par des dirigeants communistes. Elle est l'objet d'un combat résolu des confédérés de Jouhaud et de Belin qui se sont battus contre les grèves de 1936. Les mines, c'est une fédération confédérée. qui n'a pas fait grève en 36. Et il faut voir comment le chef des mineurs confédérés envoyait sa lettre d'excuse à Pétain en disant voilà, nous ne pouvons plus rien faire. Le préfet Karl l'a annoncé en octobre 1940. En mai 1941, les communistes lancent la grève des mineurs qui donne lieu à une répression allemande effroyable. Avec la complicité des compagnies de mines, on fait remonter du fond des prolos torse nu parce qu'il fait chaud dans les mines, hein, et on les déporte comme ça, on les emmène à la prison et on les déporte ou on les exécute. Ce sont des communistes. En mai 1941, le Front National, cette organisation qui sous direction clandestine communiste se mettent en place et qui est un élément évidemment de la Constitution, des francs-tireurs partisans, etc., qui est le noyau de la résistance militaire active, de ce qu'on appelle la résistance intérieure. C'est mai 41. Toute la correspondance qu'on a depuis octobre sur le mécontentement social attisé par les communistes contre lesquels la répression dans les usines est effroyable. Donc, d'une part, la résistance active a commencé avant le 22 juin. Mais évidemment, je reviens à mon explosion de joie, c'est à partir de ce moment-là que dans les conditions extrêmement difficiles de l'action communiste, sur fond de collaboration policière effroyable, dès le début de 1941, c'est bien avant Bousquet, ça s'aggrave, si je puis dire, à l'époque de Bousquet avec les accords avec Auberg, de juillet 42 qui sont complétés après l'occupation de la zone non occupée après novembre 1942, en 43 qui sont complétés, mais la collaboration policière, elle a été éminente tout de suite, et je le rappelle, c'est une collaboration policière qui est une collaboration patronaux-policière, parce que ce qui existait avant la guerre, cette collaboration quotidienne entre le grand patronat et les services de police que j'ai montré dans divers cas, et j'ai montré alors, je dirais, de manière particulièrement précise dans l'entreprise Renault, puisque le directeur général de Renault, le hideux futur ministre de la production industrielle de Vichy, d'une part, et depuis octobre 1940, directeur responsable du comité d'organisation de l'automobile, il était en conversation écrite ou téléphonique avec le préfet de police et le préfet de la Seine tous les jours, dès l'arrivée des Allemands, comme il était dans la période antérieure, en correspondance quotidienne avec la police. Donc, même la date du 22 juin ne permet pas d'établir la première césure, mais oui, c'est une césure essentielle dans des conditions terribles. On voit confirmer ce qu'on sait depuis 1939, c'est-à-dire une chasse à l'homme, il faut bien dire à la femme aussi, hein, parce que des militantes communistes, il y en a eu, une chasse à l'être humain communiste qui n'a pas de cesse. Quand je suis allé chez la préfecture de police, surtout du militaire Befehlshaber in Frankreich, de l'administration militaire allemande, toutes les deux semaines, la préfecture de police envoyait aux Allemands, à partir du début de 41, un état des arrestations des résistants, pas seulement des communistes d'ailleurs. Il y avait évidemment ce qu'on appelait la résistance gaulliste. Alors, la résistance gaulliste, c'était tout ce qui n'était pas la résistance communiste. On appelait ça résistance gaulliste. Bon, il y a dans cette période entre 12 et 16 pages de texte sur les arrestations. Il y en a en général entre une page et une demi-page de ce qui est appelé sous forme globale la résistance gaulliste, tout le reste c'est les communistes. Alors c'est une source extraordinaire d'ailleurs, ce service qui existait avant sous une autre forme, c'est un service de police anticommuniste à l'intérieur de la préfecture de police qui a été remanié à partir de septembre 1939. C'est le même, on a les mêmes rapports. Alors d'abord, on voit une chose essentielle, hein. Les Français ont déjà arrêté une masse considérable de communistes depuis septembre 39. C'est-à-dire qu'il y en a déjà des milliers et des milliers. On fait mieux et on a là toutes les arrestations des grands dirigeants communistes et des pas grands dirigeants, mais de tous les grands, à partir de 41. 1941-1944 ne retouche en rien des réalités qui sont établies depuis l'avant-guerre. C'est ce que montre très bien d'ailleurs toute étude de la justice. La lutte contre les dissidents, elle est établie notamment par les archives de la justice. Ce qu'on appelle la résistance active, c'est essentiellement la résistance communiste. C'est une question qui ne se discute pas et les sources catégoriques et convergentes sont fournies d'une part évidemment par les archives allemandes. D'une part, la série AJ40 Police, époustouflante, et puis une autre aussi époustouflante qui est ce qu'on appelle les archives de Berlin qui sont revenues en France à partir de 47 et que j'ai massivement utilisé pour tous mes ouvrages sur 40-44. Donc on a les archives allemandes, formelles, sur la chasse aux communistes, sa précocité et je dirais son caractère essentiel parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. On a les archives policières françaises, ce qu'on appelle la résistance intérieure. Et ça, ça commence à l'été 1941, pas en 42, pas en 43, en 41. Il n'y a pas de résistance armée active avant la résistance communiste. Et puis, il y a toute une série de préfets qui ont littéralement vidé leur dossier de son contenu de police, et quel dommage, c'était le plus important. Mais enfin, on en a beaucoup. J'ai consulté les archives 41-44 des préfets régionaux. L'institution est créée en 41. Enfin, je ne sais pas, ils se sont donné le mot pour expliquer que la résistance était exclusivement communiste. Communiste, terroriste, c'est les communistes. Et je vais donner un dernier élément, mais ceux qui sont curieux iront regarder dans mes ouvrages où les milliers de notes font référence à des milliers de documents. On a toutes ces sources d'archives qui établissent, région par région, BCRA aidant, une foison extraordinaire dont je sortirai un document, mais que les auditeurs soient rassurés, il n'y en a pas qu'un. Hein. Je dis ça parce que quand j'ai parlé d'assignation, on a expliqué que j'avais jamais lu que le rapport Chavin. Bon, pas du tout. On a absolument convergent des documents entièrement divers, dont je n'extrairai ici qu'un document qu'on peut rattacher à la catégorie BCRA, parce que c'est un document de renseignement d'un très haut fonctionnaire de la SNCF, texte de fin 43, qui est une chronologie extraordinaire de la résistance chez les cheminots depuis 40, et surtout, bien sûr, depuis 41, la résistance armée. Il analyse la répression française de 39-40. Il montre comment la police française, ça va de soi, les confédérés, les cadres de la SNCF se sont acharnés contre les communistes. C'était la vengeance de classe, la vengeance idéologique, voilà. Et voilà ce qu'il dit en 43. Si un cheminot veut se battre contre les Allemands, il est obligé d'aller chez les communistes, il est obligé d'aller chez les FTP. Et il dit actuellement, on ne peut faire de résistance active qu'en étant FTP. Alors, je suis désolé. Si les archives françaises de police ou de résistance gaulliste ne suffisent pas, si les archives policières et militaires allemandes ne suffisent pas, si les archives des préfets ne suffisent pas, il faut quoi ? Que ça plaise ou que ça ne plaise pas ? Moi, évidemment, je suis marxiste, j'allais dire, depuis l'âge de 16 ans, mais un engagement politique qui n'a jamais porté atteinte à mon honnêteté intellectuelle, jamais. Mon engagement politique, il m'a juste donné ce que Marx demande aux philosophes de respecter. La seule philosophie, finalement, qu'on puisse adopter, c'est d'être radical, de prendre les choses par la racine. Regardons les archives, buvons frais et arrêtons de répéter ces âneries insupportables. Bon.
Merci à Annie Lacroix-Riz pour ce nouvel exposé que tu pourrais écouter sur notre site, polémiquesetlavoixoff.com. Tu n'es pas au bout de tes surprises, comme tu le verras au prochain épisode de cette passionnante et triste saga populaire. Rendez-vous donc sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.